Alors, frères et sœurs, est-ce qu'il vous arrive de rater des choses dans votre vie? De pas forcément faire exactement comme vous auriez dû? Et est-ce que, par moments, ces ratés ont des conséquences que vous regrettez ou qui portent préjudice à un frère ou une sœur ou même peut-être à l'Église? Eh bien, le texte que je vous invite à lire ce matin, c'est un peu l'histoire d'un fiasco, l'histoire d'un raté. Et donc je vous invite à le redécouvrir en lisant dans Marc au chapitre 9, versets 14 à 29. Je vais l'afficher à l'écran, mais vous pouvez le suivre dans votre Bible, surtout si vous le suivez dans une autre Bible qu'en français. Donc Jésus, ouais, juste un mot de contexte d'abord. Jésus, il arrive donc de la montagne où il a été transfiguré. Il arrive avec Pierre, Jacques et Jean, dont il s'était accompagné, et il redescend, retrouvant le reste des disciples. Je lis donc au verset 14. En venant vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès qu'elle vit Jésus, toute la foule fut remuée et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux? Quelqu'un dans la foule lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils. Il a un esprit muet. L'esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette à terre, et l'enfant écume, grince des dents et devient raide. J'ai dit à tes disciples de le chasser, et ils n'en ont pas eu la force. Prenant la parole, Jésus leur dit, Génération incrédule, jusqu'à quand serai-je auprès de vous? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter? Amenez-le-moi. Ils le lui amenèrent, et dès qu'il vit Jésus, l'esprit se mit à agiter l'enfant de convulsions. Celui-ci, tombant par terre, se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Il dit, Depuis son enfance. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par pitié pour nous. Jésus lui dit, Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus, voyant la foule s'attrouper, menaça l'esprit impur. Esprit sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Avec des cris et de violentes convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme mort, si bien que tous disaient, Il est mort. Mais Jésus, en lui prenant la main, le fit lever et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, Et nous, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, Ce genre d'esprit, rien ne peut le faire sortir que la prière. Alors je vous l'ai dit, frères et sœurs, dans le passage précédent, puisque nous sommes dans une lecture des commentaires suivis dans Marc, dans le passage précédent, Jésus était à l'écart sur une haute montagne, c'est ce qu'on nous dit au verset 2. Avec une délégation très restreinte, seulement Pierre, Jacques et Jean, probablement le best-of de ses disciples. En tout cas, les gens sur lesquels Jésus avait envie de s'appuyer et de leur révéler quelque chose de particulier. Et sur cette montagne, donc, se déroule un des événements les plus étonnants de l'Évangile, à savoir la transfiguration de Jésus, en présence donc de Moïse et Élie. Et donc, sitôt Jésus descendu de la montagne, on perçoit comme un malaise autour des disciples qui étaient restés. Donc il y a du monde, il y a une grande foule, il y a des scribes, et les disciples, ils semblent vraiment être au cœur d'une polémique. Ça discute, ça s'agite, ça s'interroge à propos de ce qui vient de se passer. Mais en fait, qu'est-ce qui vient de passer? Et ben justement, qu'est-ce qui vient de se passer? Ben justement, rien en fait. La manière dont le récit est rédigé nous fait découvrir les choses au même rythme que Jésus, et Jésus découvre que l'homme lui raconte, j'ai amené mon fils possédé par un esprit muet, Les disciples ont tenté de le chasser, mais ils n'en ont pas eu la force. Donc, j'ai mis quelque chose, c'est mal passé, mais en fait, il ne s'est rien passé. Et en fait, c'est un peu le drame. C'est un peu le drame d'abord pour les disciples, parce que c'est un cuisant aveu d'échec. Et ça les laisse dans l'incompréhension. On le voit à la fin du passage, ils vont demander à Jésus, mais en fait, pourquoi ça n'a pas marché, entre guillemets. C'est un drame pour le père, parce que le père de cet enfant, cela remet en question la capacité même de Jésus à pouvoir secourir son fils. Il est désespéré. Et puis pour la foule et les scribes, je ne sais pas si c'est un drame, mais en tout cas, on imagine que ça doit faire jaser. Les disciples dont on a entendu parler sont-ils finalement bien réels, puisque les disciples n'en sont pas capables? Qui est finalement ce Jésus dont ils sont censés être les disciples? Ce Jésus n'est-il pas un imposteur? Est-il vraiment animé de l'Esprit de Dieu, si ses disciples sont ainsi limités? Vous avez peut-être constaté dans la vie que, parfois, face à un public qui n'est pas super bienveillant, il suffit d'un seul échec, un seul raté, pour faire oublier tout ce qui a été réussi auparavant. Et on pourrait penser que cet échec gomme dans l'esprit de la foule tous les miracles dont ils ont entendu parler, puisqu'ils sont venus et qu'ils s'étaient passés. Donc Jésus voit cela, et quelle est sa réaction? Au verset 19, « Génération incrédule, jusqu'à quand serai-je auprès de vous? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter ?» Pour Jésus, je ne sais pas si c'est un drame, mais cela sonne comme une déception. Une déception de se trouver encore obligé d'intervenir, parce que ses disciples ne sont toujours pas capables d'avancer seuls. Déception parce que il règne un climat de doute. Et lui, Jésus, il sait que désormais le temps est compté. Sur la montagne, juste avant, il a été une nouvelle fois mentionné sa résurrection, au verset 9, et donc sa mort. Et puis juste après, dans le passage qui suit, que je n'ai pas lu, au verset 31, il en parlera à nouveau. Jésus sait, il sait donc à quel point la foi de ses disciples va bientôt être mise à l'épreuve. Mais, au-delà de la déception, ce que Jésus pose dans cette phrase, c'est en fait un diagnostic du problème qui est à l'origine de cet échec. L'incrédulité, c'est-à-dire le manque ou l'absence de foi, et le fait qu'ils doivent en conséquence supporter. Le mot supporter, on l'entend peut-être d'un sens négatif, comme je dois supporter ce collègue, je dois supporter telle ou telle épreuve. Non, c'est vraiment supporter, c'est le sens de soutenir, de porter, de supporter. Et donc, Jésus doit effectivement supporter ces gens, doit les soutenir, doit porter ce qu'ils n'arrivent pas à porter eux-mêmes. Et donc ce diagnostic, à la fois du manque de foi et de la nécessité que Jésus supporte, va se confirmer en fait dans le récit qui suit, avec la rencontre du père et de son enfant. Alors, je vous propose de voir cela maintenant. Alors, avec le père, s'entame un dialogue, un long dialogue. Hein. C'est pas souvent dans l'évangile qu'on a autant de questions-réponses avec le même interlocuteur. Et Jésus entame le contact avec une question apparemment anodine. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis combien de temps l'enfant a ces crises-là? Alors ça sonne comme si Jésus cherchait à établir un diagnostic du mal, un peu à la façon d'un médecin. Et c'est peut-être le cas, hein. Mais je crois aussi qu'en faisant cela, il entre en relation avec le Père. À travers cette question anodine, le Père est amené du coup à refaire l'historique, à réaliser combien le mal est profond, puisque l'enfant a frôlé la mort plusieurs fois, et à réaliser que lui-même a aussi besoin du secours de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'emploi du pronom « nous ». Viens à notre secours et par pitié pour nous. Bonjour. Comme s'il commençait à réaliser que son fils n'est pas le seul à avoir besoin d'être secouru. Et alors Jésus va opérer une première rectification. Parce que pour le Père, le problème c'est que les disciples manquent de force. C'est ce qu'il a dit au début, ils n'ont pas eu la force. Et il se demande si Jésus peut faire quelque chose. On est donc dans le registre de la capacité. Alors Jésus le reprend en répétant ces mots. Et il rappelle une évidence. Tout est possible à celui qui croit. Quand on est dans le registre de la capacité, je vais peut-être vous choquer, mais c'est un petit peu le registre de la sorcellerie, en fait, hein, ou de la magie. On est en quête de puissance, on veut accomplir des prodiges, mais c'est pas du tout de ça dont il est question ici. Jésus recentre la question sur la question de la foi, de la confiance, hein, c'est le même mot, la foi, la confiance en Dieu. Un Dieu qui, lui, peut tout. Et cette confiance, le Père l'avait perdue. Le malheur de son fils, l'incapacité des disciples à arranger la situation, lui avait fait perdre foi en la capacité de guérison de Dieu. Ah, c'est étonnant cette interprétation, si tu peux quelque chose. Jésus lui répond donc, tout est possible à celui qui croit. Et cette vérité le percute et lui fait pousser ce cri du cœur, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Dans ce cri, il y a à la fois la proclamation de sa foi en Jésus, je crois, la reconnaissance de sa faiblesse et l'aspiration à approfondir sa relation à Dieu. Dans cette petite phrase, il y a tout ça. Quand on y pense, quel témoignage! Et dans cette exclamation, il reprend finalement à son compte exactement le constat posé par Jésus. Je manque de foi, donc je suis incrédule. J'ai besoin de ton secours, donc j'ai besoin d'être supporté, d'être soutenu. Ainsi, cette confiance établie et la reconnaissance profonde de ses propres limites ouvrent toutes grandes les portes du rétablissement de son fils. Et c'est ce qui va se passer ensuite. Jésus, d'une parole, prend autorité sur l'esprit et délivre l'enfant. Esprit sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. On peut noter l'insistance à « et n'y rentre plus ». Cela fait probablement référence au fait qu'il s'agit de crises répétées. C'est ce que nous dit le Père, hein, ça lui arrive à tout moment, dans tout lieu. Et cela marque le caractère définitif de cette délivrance. Il n'y rentre plus, c'est fini. Mais avez-vous remarqué, cette délivrance va s'opérer en deux étapes. D'abord, l'enfant devient comme mort. Mais vraiment, hein, l'enfant devient comme mort, si bien que tous disaient « il est mort ». C'est vraiment, les gens pensent que c'est fini, c'est raté. Et effectivement, dans des expériences de guérisseurs, de magiciens, de gens qui jouent un peu avec le feu, c'est probablement des choses qui devaient arriver, hein. De temps en temps, on maîtrise pas totalement ce qu'on fait, et ça se termine vraiment par un vrai drame. Et peut-être que les gens assimilent Jésus à ce genre de pratique, au point que du coup, ça a raté, il est mort. Mais l'histoire, évidemment, ne s'arrête pas là. Jésus le relève. Et les mots qui sont employés, c'est le mot « faire lever » et « se mettre debout » que l'auteur Marc emploie ici dans ce texte, sont exactement les mêmes termes que ceux qui sont utilisés ailleurs pour désigner la résurrection. Donc Jésus, à travers ce simple geste, à travers ce petit détail peut-être sur lequel on ne s'arrêterait pas de prime abord, il donne en fait une préfiguration de sa résurrection. Il est la résurrection et la vie. Et comme il le dira dans Jean 11, au moment de la résurrection de Lazare, versets 25 et 26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Et ça va encore plus loin. « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Tout est possible à celui qui croit. Donc face à la foule qui s'attroupe autour de lui, il vient de donner une illustration concrète de la réalité à venir. Ses disciples peuvent aussi en prendre bonne graine, puisque Ils ont du mal à entendre ce message de la résurrection, mais ils en ont ici une illustration. Alors justement, les disciples, peut-être qu'il faut qu'on en dise deux mots, qu'on revienne un petit peu à eux. Parce que les disciples, on sait qu'ils ont déjà eu l'occasion d'accomplir de grandes choses. Hein. Vous vous rappelez, chapitre 6, ils partirent et ils proclamèrent qu'il fallait se convertir, ils chassaient beaucoup de démons, ils faisaient des onctions d'huile à beaucoup de malades et ils les guérissaient. Jésus leur a donné une partie de son autorité et leur a donné le mandat pour accomplir ce que lui-même accomplit. Donc, ils sont capables d'accomplir de grandes choses au nom de Jésus. Mais les voilà qui se retrouvent à nouveau seuls. Cette fois-ci, ce n'est pas Jésus qui les a envoyés. Ils se retrouvent seuls parce que Jésus est parti sur la montagne avec sa délégation que j'ai évoquée tout à l'heure. Et donc, ils se retrouvent dans une situation où faut gérer ce qui se passe, quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a cet homme qui vient avec son fils. Et ben eux, naturellement, ils vont poursuivre le ministère que Jésus leur a confié. Et ce pauvre père leur dit de chasser l'esprit. Alors, ils s'exécutent. Ça part d'une bonne intention, non? Enfin, probablement, aurions-nous fait la même chose. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. C'est un échec. Alors, qu'est-ce qui a coincé? Je pense qu'on peut s'intéresser d'un peu plus près à ce qui tourmente cet enfant, parce que la situation est un peu particulière. Le texte mentionne un esprit muet. Alors moi, je me suis longtemps questionné, en préparant ce message, pourquoi un esprit muet? Est-ce qu'on en parle ailleurs dans l'Évangile? Qu'est-ce que ça peut signifier? Et en fait, j'ai tout simplement réalisé que, ici, effectivement, l'esprit ne parle pas. C'est-à-dire que on a vu par le passé des esprits qui disent « Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre » ou « Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu ». Et là, pas de protestation, l'esprit reste silencieux. Et je pense que c'est pas un détail parce que on voit bien que ce nom « esprit muet », c'est vraiment le qualificatif qu'emploient les protagonistes même, les acteurs de la scène l'appellent comme ça. Donc c'est bien une caractéristique assez particulière. Et donc, ça montre qu'on n'a pas affaire à un esprit comme un autre. Et puis, on remarque aussi, dans le dernier verset que je vous ai lu tout à l'heure, Jésus dit « ce genre d'esprit », comme s'il s'agissait bien d'une catégorie à part. Donc ça doit éveiller un peu notre attention. Bon, et puis après, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait un petit peu, qui ont quelques connaissances de médecine dans la pièce. Vous en avez sans doute plus que moi, parce que moi, ça s'arrête vraiment à pas grand-chose. Mais beaucoup d'observateurs ont vu dans les symptômes qui sont décrits des caractéristiques assez claires d'une forme d'épilepsie. Cela cadre avec le fait que ça arrive à un enfant. Cela cadre avec le fait que ça arrive n'importe où, donc de façon inopinée. Et c'est le sens même du mot grec « épilepsie hein, », ça veut dire qu'il prend par surprise. Ça arrive par des crises répétées, et puis on retrouve dans le texte beaucoup de symptômes qui sont communément décrits, je suis allé vérifier sur Wikipédia, les convulsions, le raidissement, contraction du visage, chute au sol, perte de connaissance, il y a énormément de détails qui pointent vers ce mal, donc l'épilepsie. Alors on pourrait tenir là l'explication de l'échec des disciples, ils ont fait simplement une erreur de diagnostic. Ils ont pensé que l'enfant était possédé, alors qu'en fait, il souffrait de ce qu'on appellerait aujourd'hui une maladie neurologique. Et donc, ils ont voulu chasser un démon, alors que l'enfant nécessitait une guérison. Comment en vouloir aux disciples? Il est évident qu'à l'époque, on ne disposait pas des connaissances médicales d'aujourd'hui. Et puis, ce genre de crise, qui est à la fois spectaculaire et inattendue, ça a très longtemps été compris comme d'origine spirituelle, occulte, démoniaque, ce que vous voulez. C'est assez logique, en fait, hein. Peut-être face à un tel phénomène, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une crise d'épilepsie, mais c'est extrêmement spectaculaire. Et je pense que c'est même la conception de Marc, l'auteur de l'Évangile. Du coup, dans ce contexte où on n'a aucune possibilité d'imaginer que ce soit autre chose qu'un démon, je trouve assez remarquable et assez intéressant que Jésus, lui, on sent que il a compris qu'il s'agit d'un essai d'autre chose. Il parle d'un autre genre d'esprit. Et même s'il chasse cette maladie comme il chasse un démon, il sait qu'il est face à quelque chose d'autre que les démons précédents. Alors, est-ce que ça voudrait dire que il faut qu'on ait tous fait des études de médecine pour éviter le type d'échec des disciples? Évidemment que non. Hein. Vous pouvez faire des études de médecine si ça vous intéresse. Probablement, le Seigneur saura s'en servir, mais c'est pas ça que Jésus reproche aux disciples. Hein. Il ne leur reproche pas de manquer de science, il ne leur reproche pas d'être ignorants. Mais peut-être qu'il est bon quand même de nous rappeler que l'humilité est absolument essentiel. Moi, ce texte, il m'a beaucoup rappelé, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, le témoignage de Benjamin Peter Schmidt, qui est le fils de Samuel Peter Schmidt, qui est pasteur de l'église La Porte Ouverte à Mulhouse. On trouve son témoignage sur Internet, notamment dans une vidéo où on entend sa parole, la parole de l'infirmière qui l'a accompagné, et la parole de son père. Et c'est intéressant d'avoir ces trois éclairages. Et Benjamin Peter Schmidt, Il a été atteint pendant, je crois, 9 mois de troubles mentaux particulièrement sévères, où il avait des visions, où il avait des, il a été vraiment réduit à l'état de légume. Et il raconte que nombreux sont les gens qui, dans les milieux chrétiens dans lesquels il baignait, ils ont assuré qu'il était possédé. Et on peut les comprendre, mais grâce à Dieu, il en est revenu. Et il témoigne aujourd'hui des ravages que peuvent faire de prétendus diagnostics spirituels un peu à l'emporte-pièce. N'allons pas trop vite en disant « mais telle personne est possédée, telle personne... » ou dans l'autre sens, hein, on a aussi la tendance inverse à voir tout comme des troubles psychiatriques, là où il peut y avoir un vrai problème spirituel. Mais ce qui est remarquable, j'en dis encore un mot sur ce témoignage et je vous inviterai après, si vous voulez, à aller le voir sur YouTube. Ce qui est remarquable, c'est qu'en entendant le récit de son père, on comprend malgré tout que derrière les mots de son fils, il y avait bien une œuvre destructrice de l'adversaire, mais elle ne se situait pas au niveau de la maladie en elle-même. Et c'était plus global que ça. Tout ça pour dire, soyons prudents. On peut faire beaucoup de tort et beaucoup de ravages en posant une étiquette, un diagnostic sur quelqu'un. Et donc, l'appel de Jésus à la prière, à la fin de ce récit, est absolument clé. Et donc, non, Jésus ne reproche pas aux disciples de manquer de science ou d'être ignorants. Comme je viens de le dire, ce genre d'esprit, rien ne peut le faire sortir que la prière. Il insiste vraiment sur la nécessité d'être connecté avec Dieu dans ce genre de cas. La prière, c'est-à-dire la communion à Dieu, la relation vivante à Jésus, et de cette relation va naître sagesse et discernement à travers son Esprit Saint. Si on ne fait pas ça, on part dans nos schémas de pensée, dans notre excès de confiance, confiance en nous et non pas en Dieu, et on fait des bourdes, des boulettes, des erreurs. Ces bourdes qui peuvent avoir de graves conséquences puisqu'elles peuvent être un contre-témoignage, c'est le cas ici vis-à-vis de la foule, et puis elles peuvent aussi faire perdre pied à ceux qui avaient une foi vacillante et qui nourrissaient des attentes qu'on avait nous-mêmes suscitées. Les disciples, par leur aura, je pense qu'ils avaient quand même une aura à ce moment-là, suscitaient des attentes auprès des gens, et là, l'attente est déçue. Et il est intéressant de noter d'ailleurs que l'action des disciples, vraiment, elle a été commandée par le Père. Le Père du Fils, hein, de pas le Père avec un petit p. Le verset 18 nous dit « J'ai dit à tes disciples de les chasser et ils n'en ont pas eu la force. » C'est quand même étonnant, c'est le Père de l'enfant malade qui a lui-même posé le diagnostic en demandant aux disciples de faire ceci. Il est légitime de se demander à quel moment, que ce soit lui le Père ou bien les disciples, à quel moment on a pris le temps de s'asseoir et de demander à Dieu sa lumière dans cette situation. À quel moment on s'est soumis à la volonté de Dieu. Gardons-nous de dire à Dieu ce qu'il a à faire et restons humbles face aux situations qui se présentent à nous, que nous soyons dans la situation du Père, donc que nous soyons en demande, ou que nous soyons dans celle des disciples, c'est-à-dire en réponse à cette demande. Dans tous les cas, c'est Dieu qui est souverain, et je pense que la bonne attitude, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? En conclusion, cherchez pas, la diapo est noire, pour que vous écoutez ce que j'ai. le résumé que je vous propose. La trajectoire du père est vraiment intéressante pour nous, je crois. Son fils, il est atteint d'un mal sérieux. Il demande alors, ou il ordonne, on ne sait pas bien, à des hommes de Dieu d'intervenir. Ces hommes de Dieu, forts de leur expérience, s'élancent sur deux, mais ils échouent. Et cela ébranle sérieusement la foi de ce père. Pourquoi ? Parce que sa foi reposait sur une démonstration de force, sur quelque chose qui s'apparentait à de la magie. Ils attendaient un acte miraculeux, ils attendaient presque une formule magique, hein. Et il a fallu que Jésus vienne le rencontrer, personnellement. On a vu le dialogue qui s'est engagé. Et dans cette relation naissante avec Jésus, il a réalisé qu'il était passé à côté de l'essentiel. Il a réalisé que son fils avait besoin d'une guérison, mais que lui aussi avait besoin d'une guérison. Et que cette guérison passait par le fait de faire confiance à Dieu, en reconnaissant humblement sa propre faiblesse. Il a réalisé donc qu'il avait autant besoin de Jésus que son fils mal en point finalement. Le travail passe d'abord par lui, se mettre, on va dire, en règle avec Jésus, qu'il affermisse sa foi, que cette confiance devienne renforcée, c'est vraiment sa prière à Jésus finalement, hein, augmente ma foi pour que la suite se mette en place et que son fils soit finalement guéri. C'est après avoir tout abandonné à Jésus que la puissance de Dieu a pu vraiment se déployer. On pourrait presque dire que c'est lui qui faisait obstacle à cette guérison, en fait. À travers une foi qui était mal placée, à travers une foi qui était dans des puissances humaines, dans des questions de force. Hein, c'est vraiment le mot qu'il emploie. Les disciples n'ont pas eu la force. Ce mot m'a beaucoup interpellé. Et donc la guérison de son fils, Jésus en fait une préfiguration de la résurrection que lui-même vivra. Rappelons qu'à l'époque, hein, une bonne partie des Juifs, notamment les Sadducéens, ne croyaient pas à la résurrection. À travers ce message de ce fils qui est comme mort et que Jésus relève, il y a quelque chose qui est vraiment très très fort. Et puis, pour revenir aux disciples, je voudrais vous proposer un parallèle. Parce que ce texte m'a aussi fait penser à un texte de l'Ancien Testament que vous connaissez très bien. Je vous donne des indices. On a parlé d'une montagne, on a parlé de Moïse, et de gens au bas de la montagne qui font des bêtises. Ça vous fait penser à quoi ?
Le veau d'or.
Le veau d'or. Vous êtes incollable. Oui, puisqu'on a rappelé au début de ce texte que Moïse était présent avec Jésus lors de la transfiguration, et c'est intéressant de faire le parallèle avec le récit de Exode 32, donc le fameux récit du veau d'or, où on trouve aussi Moïse sur la montagne, en présence de Dieu, et le peuple resté en bas, mais pas tout seul. Ils sont avec Aaron. Aaron qui est la figure de l'homme de Dieu, à défaut que Moïse soit là. De même que les disciples font un peu Jésus par intérim, si vous m'autorisez cette expression. Et donc le peuple, il formule une demande à Aaron. Il nous dit « Fais-nous des dieux qui marchent sur notre tête. » Et Aaron, comme les disciples dans ce texte, il obtempère sans se poser de questions. « Ok, vous voulez, ben, donnez-moi vos boucles d'oreilles, donnez-moi vos bijoux, on va rassembler tout ça, on va en faire un veau d'or. » C'est quand même surprenant. Et puis, lorsque Moïse redescend, il constate le drame. Alors, la bourde des disciples, hein, ici, elle n'a pas le même niveau de conséquence que celle d'Aaron. Heureusement. Mais dans les deux récits, nous avons affaire à des guides spirituels qui se sont coupés de la présence de Dieu. Physiquement pour Aaron, et spirituellement pour les disciples qui ont omis ce petit détail qui est la prière et qui est de se mettre à l'écoute de ce que Dieu attend d'eux. Peut-être que dans la prière, ils auraient reçu la lumière sur le fait que ce n'était pas un démon et que c'était quelque chose de l'ordre de la maladie. Peut-être que Dieu leur aurait demandé d'attendre. Peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont fait à leur idée et ça n'a pas, évidemment, obtenu les résultats qu'ils espéraient. Et donc cet avertissement, c'est bien entendu un avertissement à prendre au sérieux en tant que responsable d'église, je le prends vraiment pour moi, mais elle vaut aussi pour chacun d'entre nous, puisque nous sommes tous appelés à tenir le rôle qu'ont tenu les disciples pour l'avancement du royaume. Alors frères et sœurs, que le Seigneur nous supporte c'est-à-dire qu'il nous soutienne, aussi longtemps qu'il le faudra, lui qui, par sa résurrection, a vaincu toutes les puissances, y compris la maladie et la mort. Et puissions-nous dire, nous aussi, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Amen.